Terre, le 18-20.
Bonsoir, Emmanuel Macron veut une Europe qui se remette en marche, qu'elle soit, je le cite, digne des promesses d'hier pour porter les promesses de demain. L'Europe a été au cœur de la campagne du nouveau président, elle reste au cœur de son projet pour le quinquennat à venir. Il veut aussi une Europe qui protège les oubliés de la mondialisation et il souhaite recréer la confiance dans le couple franco-allemand. On l'a vu hier avec la rencontre à Berlin, cela semble pas trop mal parti, mais il va falloir sans doute donner beaucoup de gages de réforme. Angela Merkel, Emmanuel Macron semble là aussi prêt à refonder les traités. Encore faut-il savoir sur quoi et dans quel but. Bref, au-delà des mots, au-delà de la volonté politique de réformer l'Europe, eh bien, il va falloir désormais agir. En clair, il faut qu'il y ait des résultats sur de nombreux dossiers. Emploi, immigration, sécurité. Alors, question ce soir en direct de Strasbourg. Quelles sont les réelles marges de manœuvre d'Emmanuel Macron pour relancer cette Europe qui vit un moment critique, hein, c'est ce qu'ils ont dit hier avec la chancelière allemande. Et c'est ce que nous allons essayer de débattre avec tous nos invités.
Le téléphone sonne, Europe. Stéphane Le Neuf.
Et autour de cette table avec moi, Dominique Riquet du groupe Alliance des démocrates et libéraux. Bonsoir Dominique Riquet.
Bonsoir.
Claude Rollin du groupe du Parti populaire européen. Bonsoir. Bonsoir. Et on attend Maria Arena du groupe des socialistes qui est actuellement juste à côté, mais elle est encore en séance, donc elle va nous rejoindre au cours de cette émission. Messieurs, avant qu'on aille au standard, j'ai une question à vous poser. Hier, Emmanuel Macron, Angela Merkel, première rencontre, qu'est-ce que vous en tirez? On a eu une belle image, mais pour l'instant, évidemment, sur le fond, on attend beaucoup de choses.
Mais Claude Rollin. Je pense qu'il ne faut pas imaginer qu'en une rencontre, les choses vont changer. Mais je pense que c'est important. Il y a un message symbolique. Effectivement, la première rencontre du président français se fait avec Mme Merkel. Ça veut dire que ce qu'on appelait le couple franco-allemand retrouve un espace, en tous les cas potentiellement, un espace pour rejouer son rôle.
C'est essentiel. Il n'existait plus ce rôle sous François Hollande.
Je pense qu'il faut être clair, enfin, en tous les cas la vision que moi j'en ai comme Belge, c'est qu'effectivement ce couple ne fonctionnait plus, que le moteur n'était plus là finalement. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a de nouveau un espace qui est là. C'est intéressant, je pense que c'est un signe positif. Et le signe pour moi le plus positif quand même, c'est d'avoir vu cette élection. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu un politique de haut niveau faire campagne pour l'Union européenne, pour le projet européen. Je trouve que c'est en train de changer, non pas uniquement la France, peut-être que c'est en train de changer l'Union européenne.
Dominique Riquet.
D'abord, c'est la première fois qu'on a un président pro-européen, moi je le dis tout net, parce que il y avait des présidents qui étaient très français en Europe et qui se souciaient de l'Europe, mais qui n'étaient pas pro-européens, donc je crois que ça change énormément de choses. La deuxième remarque, effectivement, c'est qu'on sait bien que c'est l'axe franco-allemand qui est déterminant. Moi, je crois qu'hier, tous les problèmes ont été évoqués, tous. Il y a les problèmes de court terme, les problèmes de moyen terme et les problèmes de long terme.
En une heure, vous pensez qu'ils ont eu le temps vraiment de tout poser sur la table ?
Oui, ça a été évoqué. Je veux dire qu'il y a eu une espèce de... Et on s'est mis d'accord sur quoi ? Sur ce qu'il fallait regarder tout de suite et puis aussi sur ce qu'il était nécessaire de voir et de résoudre dans les mois, voire les années qui viennent, puisqu'on a même été jusqu'à évoquer les traités, bon, c'est beaucoup dire. Ça veut dire simplement que pour la première fois, l'Europe, c'est pas seulement l'axe franco-allemand, hein, c'est l'Europe est prise en considération.
Vous avez parlé, Claude Rollin, d'un nouvel espace, effectivement, mais cet espace n'existait plus dans le passé, même entre François Hollande, Angela Merkel, c'était quoi? C'était au point mort complet ou, parce que bon, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ce que veut Emmanuel Macron. Il y a les mots et puis il va y avoir les actions, il va y avoir le concret qui va arriver, il va falloir que ça arrive très vite quand même, parce que là, on était dans la campagne, on est toujours dans les mots, maintenant, il va falloir mettre de l'essence dans la machine, en quelque sorte.
Il va falloir avancer, il va falloir que ça se concrétise, c'est important. Mais est-ce que quelqu'un aurait imaginé, il y a encore quelques jours, que dans un contact entre un président français et Mme Merkel, il y a un accord qui se dégage pour l'éventualité d'une réforme des traités ? Enfin, moi, j'aurais vraiment pas parié là-dessus. C'est quelque chose, quand même, d'intéressant qui vient de se passer là. Or, ça ne suffit pas. Mais qu'on ait un homme de premier plan dans l'Union européenne qui veuille effectivement réconcilier les citoyens européens avec le projet européen, qui veut, comme il le dit, que l'Union européenne puisse protéger. Il y a vraiment, dans l'Union européenne, et je l'entends au travers des contacts avec les différents collègues dans différents pays, aujourd'hui, beaucoup de citoyens européens se sentent en insécurité pour toute une série de raisons. Et bien, de pouvoir faire en sorte que l'Union européenne puisse de nouveau les sécuriser, leur donner un avenir, c'est essentiel. Je pense qu'il y a les paroles aujourd'hui, mais les paroles sont importantes en politique. Et puis bientôt, après, il faut les traduire, bien entendu.
Alors, on va au standard au 01 45 24 7000 avec Pierre qui nous appelle de Grenoble. Bonsoir Pierre, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Voilà, donc je voudrais poser une question à vos invités pour savoir pourquoi Emmanuel Macron revient en arrière sur l'histoire du prélèvement à la source. Parce qu'il me semble que c'est quand même un pas en avant justement pour l'uniformisation de la taxation en Europe. Et je comprends vraiment pas, une fois que maintenant toutes les lois ont été approuvées, etc., qu'il revienne en arrière et que ça engendre des frais supplémentaires, quoi.
Merci Pierre. Question économique intérieure. Hein. Dominique Riquet.
C'est pas corrélé directement au problème européen, parce qu'en fait, il y a des pays qui prélèvent à la source, d'autres pas. Je pense que les raisons qui ont été avancées par Emmanuel Macron sont des raisons d'incertitude et de complexité de la mesure, et aussi d'évaluation des charges que ça pouvait causer, notamment aux entreprises. Donc la mesure, il y a un stand-by, je pense qu'ils vont l'évaluer. Et qu'elle sera ou non d'ailleurs implémentée l'année prochaine, s'il apparaît qu'effectivement les choses, de manière un peu moins hâtive que ce qui avait été fait, que c'est une mesure qui est profitable, mais ça n'est pas directement d'impact en Europe.
Maria Arena vient de nous rejoindre, vous sortez de l'hémicycle, merci d'être là avec nous jusqu'à 20h. Bonsoir. On évoquait rapidement, on va revenir un petit peu en arrière, on évoquait rapidement hier un petit peu la photo du couple franco-allemand. Belle photo, mais pour l'instant sur le fond, vous pensez qu'il y a quand même eu déjà des avancées hier après une heure de débat, entre les deux discussions?
Alors, je pense que voir un couple franco-allemand, ça fait toujours plaisir en Europe, mais l'Europe ne se limite pas au couple franco-allemand. Et donc, je pense que s'il y a effectivement des choses qui se sont passées, qui se sont dites entre M. Macron et Mme Merkel, ce serait peut-être bien qu'ils puissent aussi les partager avec l'ensemble des États membres pour pouvoir avancer. Je pense que l'Europe se construit à 27, et bien entendu, le couple franco-allemand est un couple important, un moteur important, mais il faut aussi faire partager ces bonnes idées avec l'ensemble des 27.
Alors, Françoise nous appelle de Marseille. Justement, vous vouliez évoquer un petit peu la tutelle allemande, hein, c'est cela?
Oui, voilà. J'avoue que, bien que j'adore les citoyens allemands, mais je suis un peu vexée de la tutelle allemande, notamment que la première visite du président, à peine 24 heures après son élection, ça soit pour se faire adouber par l'Allemagne. Je trouve ça assez vexant. Et deuxièmement, je voulais dire que si on veut nous faire aimer l'Europe, il faudrait qu'elle soit un peu moins intransigeante. Et j'en veux pour preuve le traitement infâme qu'on a réservé à la Grèce et aux citoyens grecs pour leur faire rembourser une dette qui est de toute façon irremboursable. Et je dois dire que les citoyens grecs, ils aiment du tout l'Allemagne. Et franchement, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre.
Merci Françoise, vous étiez à Marseille, Dominique Riquet. C'est quoi, c'est un rituel d'aller voir les Allemands? C'est vrai que ça fait un petit peu... Bon, on va aller voir le couple franco-allemand, on remarque à nouveau la bonne entente, mais ça fait quand même un petit peu...
Il y a deux aspects. Il y a un aspect historique, c'est que l'Europe s'est construite sur la réconciliation.
Est-ce que lorsque la nouvelle chancelière, bon, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il n'y a plus de nouveau chancelier, mais est-ce qu'on a la même chose dans le sens inverse?
Absolument. Je confirme que la chancelière allemande est venue à chaque fois après ça, les élections et ses réélections. Et je pense qu'il y a un aspect historique, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est la réconciliation franco-allemande après trois guerres, il faut quand même le dire, qui fonde finalement l'Europe. Et c'est pas seulement leur situation géographique ou économique. Et donc ça, je crois que ça reste extrêmement important. Deuxièmement, bon, que ça plaise ou non, et j'entends bien ce que dit notre auditrice, bon, la puissance économique la plus importante en Allemagne, et maintenant on peut dire de loin, c'est l'Allemagne. Donc on sait bien en tout cas qu'il faut essayer probablement de faire des choses, je suis d'accord avec ce que dit Maria-Lena, c'est-à-dire qu'il faut considérer l'Europe comme un ensemble, mais qu'on sait bien que rien ne se fait, en tout cas sans l'Allemagne, et probablement même sans l'axe franco-allemand. Donc il ne s'agit pas de se faire adouber, il s'agit à la fois d'évoquer le passé et de se projeter dans le futur.
Est-ce qu'en Belgique, le Premier ministre, quand il est élu, va voir les Allemands? Là, je vous pose la question à tous les deux, parce que vous êtes belges, Claude Rollin et Maria Arena.
Je le dis avec un certain sourire et un regard un peu décalé par rapport à la situation française, mais vous savez qu'en Belgique, nous vivons en royauté. Et quand j'ai regardé des images dimanche... du sacre, j'ai envie de le dire comme ça, de Monsieur Macron, et je dis ça avec respect, mais je peux vous dire que, vu de Belgique, on se dit qu'est-ce que les Français sont royalistes finalement, et donc on n'a pas le... Allez, Je pense qu'en Belgique, on n'a pas le même sens, en tous les cas, d'une certaine hauteur de la fonction présidentielle ou de la fonction de président. Le fait aussi est qu'en Belgique, nous vivons en permanence avec des gouvernements de coalition. C'est-à-dire qu'on n'a pas des images aussi fortes, je veux dire, qu'en France, qui fonctionne habituellement, en tous les cas, dans un fonctionnement majorité-opposition. En Belgique, une élection, on sait qu'on va devoir travailler avec d'autres pour avancer dans la construction de la politique nationale.
Il y avait deux aspects dans la question de Françoise. Le deuxième aspect, c'était « on aimera l'Europe que si on arrête de faire souffrir, entre guillemets, les peuples ». C'était ça le message, notamment vis-à-vis de la Grèce. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, effectivement, pour faire aimer l'Europe ?
Je pense que peut-être que dans la discussion que M. Macron a eue avec Mme Merkel, peut-être qu'il a abordé la question de cette austérité imposée aujourd'hui par M. Schäuble en Allemagne, qui est une personne tout à fait intransigeante vis-à-vis de la question de la dette.
Il n'a pas beaucoup évolué sur le sujet.
Hein. Justement, et donc c'est peut-être un des sujets qu'il faut aborder. Et si la France rentre dans ce duo franco-allemand, c'est peut-être pour adoucir aussi une position de l'Allemagne, c'est pas forcément pour être dans la ligne, en tout cas je l'espère, si c'est pour renforcer ce que l'Allemagne a fait jusqu'à présent au niveau de l'Europe, dans les politiques qui sont les politiques budgétaires extrêmement strictes, qui ne permettent pas le réinvestissement de qualité en Europe, qui est le seul moteur pour l'ensemble des États européens, c'est de réinvestir, eh bien je pense que l'Europe n'ira pas loin, avec ou sans Macron, si on continue dans cette ligne-là, l'Europe n'ira pas loin.
Est-ce que vous pensez, tous les trois, qu'il a quand même réussi, à la fois à travers la campagne, son élection, aller voir hier Angela Merkel, à secouer un peu ce dogme de l'austérité budgétaire du côté allemand ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une prise de conscience de l'autre côté du Rhin ? Alors, Dominique Riquet.
Oui, la première remarque, c'est qu'il n'y aura pas de position très nouvelle sur le sujet avant le 24 septembre, c'est-à-dire avant
les élections allemandes
aient eu lieu. Parce que,
les élections françaises aussi, législatives.
Oui, mais en fait, les Allemands ne bougeront pas sur le sujet. Je pense qu'il peut y avoir une ouverture. Bon, la question, c'est qu'il y a d'une part les déficits excessifs, et il y a d'autre part les excédents excessifs, puisque je rappelle que le pacte de stabilité, c'est à la fois vous ne devez pas avoir trop de déficits, mais vous ne devez pas avoir trop d'excédents. Et on voit bien que là, il y a deux aspects sur la question. C'est les Allemands sont très largement au-dessus des plafonds d'excédents qui sont admis par le pacte. Et nous restons les seuls en dessous. Les Français sont les seuls à être en dessous des 3%. Et à avoir les plus mauvais élèves de la classe. Donc c'est intéressant de voir à la fois le prix d'excellence, qui en fait n'est pas vraiment un prix d'excellence, parce qu'il y a des problèmes effectivement d'investissement et de compétitivité qui en Allemagne ne sont pas pris en considération. Puis en même temps aussi un peu le plus turbulent de la classe, un peu le mauvais élève, qui devrait quand même faire aussi, je pense, des efforts.
Maria Arena, comment est-ce que Macron doit reconquérir, entre guillemets, la confiance justement des Allemands ? Peut-être même les faire évoluer tout doucement sur ce débat sur l'austérité.
Alors moi je pense en démontrant que l'austérité aujourd'hui n'a pas fonctionné dans la plupart des pays dans lesquels on a imposé cette austérité. Et donc je pense qu'il faut effectivement convaincre dans ce sens. Il y a un autre sujet qui m'intéresse et je trouve ça assez particulier, c'est qu'en matière de commerce international, ce sont les dossiers sur lesquels je travaille, Emmanuel Macron est venu de manière assez étonnante avec des propositions qui sont des propositions que moi je mets sur la table depuis un certain temps, c'est-à-dire un commerce international beaucoup plus régulé, avec une protection des entreprises européennes, avec... je ne sais pas s'il a parlé de ça avec Mme Merkel, parce qu'actuellement elle n'est pas du tout une adepte de la régulation internationale, elle est plutôt extrême libre-échangiste. Et donc j'espère que là aussi il aura pu convaincre, parce que ça concerne la réindustrialisation européenne. Et je tiens à dire que si l'Allemagne est un pays très industriel, il y a d'autres pays comme la France, mais comme l'Italie, comme l'Espagne, qui ont aussi des réalités industrielles, comme l'Europe de l'Est aussi, qu'il faut pouvoir défendre, qu'il faut pouvoir soutenir, avec des règles qui sont, je dirais, à faire respecter par l'ensemble de nos partenaires. Emmanuel Macron le propose, qui sont plutôt des mesures, je dirais, qui vont dans la continuité de ce qu'Hollande aurait pu faire. Est-ce qu'il va réussir à les imposer ? Je me pose aussi la question.
Claude Rollin.
Et je pense que quand on parle d'endettement, il faut sortir un petit peu de ce débat dogmatique. Une dette n'est pas bonne ni mauvaise par essence. Il faut voir sur quoi porte l'endettement. Et je pense d'ailleurs qu'il y a un courant qui est en train de se développer en Europe, notamment même à la Commission avec Jean-Claude Juncker, de se rendre compte que le problème essentiel que nous avons, c'est que nous n'avons pas suffisamment suffisamment d'investissements. Il faut relancer les investissements. Ça veut dire qu'en matière d'endettement, il faut qu'on arrête de considérer qu'une dette est mauvaise par essence. Non, certains niveaux d'endettement, certains choix d'endettement peuvent être positifs. Quand on investit dans l'éducation, quand on investit dans les circuits productifs, quand on investit sur des outils, par exemple, qui nous permettent les conversions énergétiques, c'est intelligent. Par contre, quand on dépense de l'argent et qu'on fait de l'endettement pour des dépenses de consommation courante, c'est absolument catastrophique. Donc, on doit maîtriser l'endettement idiot et on doit faire de l'endettement intelligent pour construire de la croissance et de la croissance pour supporter l'emploi.
Dominique Riquet, vous pensez que les Allemands commencent à évoluer sur le sujet ?
Non, mais je pense, pour finir le débat, que la dette peut pas être négligée. Si on peut pas être contre l'austérité, par principe, quand la dette atteint des volumes énormes, elle menace la stabilité des États. Donc, à un moment donné, il faut arrêter l'endettement. Et à ce titre-là, il faut avoir des politiques qui soient raisonnables. La deuxième remarque, c'est que, je parle pour la France, puisque moi, je suis français. Je constate que notre endettement, il a été essentiellement fait, non pas pour investir, mais pour fonctionner. Et donc, c'est de la très mauvaise dette. Bon. Et celle-là, il faut la réduire. Je crois que pour être pris au sérieux par les Allemands, il va falloir que, enfin, le président de la République arrive à contenir la dérive de l'endettement. Et qu'il arrive en dessous des 3%. Ceci étant, si vous ne faites pas les réformes structurelles qui s'imposent, les Allemands ne vous écoutent pas. Pourquoi les Allemands sont pour le libre-échange? Mais quand vous avez 250 milliards d'excédents commercial, vous trouvez que le libre-échange, c'est très bien. Quand vous avez, comme les Français, 50 milliards de dettes commerciales, vous trouvez que c'est pas bien. Et on voit bien qu'il y a un problème. C'est qu'il faut qu'on arrive à une conjonction. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rééquilibre les deux côtés. Moi, les deux côtés.
Comme vous l'avez dit, l'excédent n'est pas meilleur que l'endettement. Et donc, l'excédent allemand aujourd'hui...
On est mieux quand on a un excédent budgétaire que quand on est endetté. Quand même.
Mais aujourd'hui, par rapport à l'Europe, par rapport à la construction européenne, ce déséquilibre d'un pays ultra fort avec un excédent et des pays plus faibles avec des dettes et ça crée vraiment une difficulté. Donc si on prend des mesures par rapport à l'austérité, par rapport au budget, il faut le prendre dans les deux sens pour pouvoir rétablir cet équilibre au niveau européen.
Claude Rollin, on ira au standard.
Moi je serais très déçu, j'étais très content et j'ai applaudi quand j'ai vu l'élection de M. Macron, d'une part parce qu'il nous a évité le pire en France et je pense qu'il représente un espoir. Mais si sa volonté se limite à faire plaisir à l'Allemagne et à Mme Merkel, je serais très déçu. C'est-à-dire, effectivement, il faut que l'Allemagne joue dans le jeu, mais aussi il faut qu'un pays comme la France occupe pleinement la place qui lui revient. Il faut retrouver un équilibre. Et sur cet équilibre, d'autres équilibres vont pouvoir se coaliser. C'est vraiment important.
Maria Reina, et on ira au standard.
En fait, j'ose vraiment espérer que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, comprennent également qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population clairement qui rejette l'Europe. Et que si ils ne se mettent pas d'accord pour dire que l'Europe peut aider ces populations-là, ni l'un ni l'autre, que ce soit par l'austérité, que ce soit par le dépassement budgétaire, que ce soit par plein d'autres choses, si on n'arrive pas à répondre à ces besoins des populations qui se sentent exclues de l'Europe, on n'y arrivera pas. Et donc, c'est peut-être ça qui va faire changer la position allemande ou la position française ou autre. C'est parce qu'on doit répondre à ces besoins des populations.
On retourne au standard. Alain, vous nous appelez de Toulon. Vous intervenez au 01 45 24 7000. On vous écoute, Alain. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors, tout à l'heure, vous aviez une auditrice qui se plaignait et gémissait que M. Macron était allé voir tout de suite l'Allemagne. M. Macron a eu parfaitement raison d'aller voir l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le bon élève de l'Europe. C'est un pays qui n'est pas endetté. C'est un pays qui a beaucoup travaillé, qui a réussi à avaler le problème de l'Allemagne de l'Est. Donc, ça a été dur pour eux. Le problème des immigrés, ça, c'est un problème, on va dire, accessoire. C'est un pays très industrialisé. Qui produit beaucoup, où les ouvriers, contrairement à ce qu'on dit, sont très bien payés, les ouvriers qualifiés. Et en fait, c'est un pays aussi, ça je voulais le préciser, où la Direction Générale des Finances Publiques, qui est l'équivalent de Bercy, il n'y a qu'une seule tête en Allemagne. Et c'est pas comme la pagaille à Bercy, où il y a l'Inspection Générale des Finances, la Direction Générale des Finances Publiques, la Direction du Trésor et le ministère du Budget, quatre têtes qui n'arrivent pas à s'entendre. Je pense que Macron, qui est une personne intelligente, ne mettra qu'une seule tête, de façon à ce que l'outil politique soit obéi immédiatement par la bureaucratie de Bercy. Parce qu'à Bercy, moi, je suis sûr, j'ai des patients qui ont travaillé, c'est une pagaille. On n'arrive pas à prendre une décision, ça traîne. Les décisions, il faut attendre le ministre suivant pour qu'elles soient mises en place. Je pense que là, il faut faire vite et bien. Et l'Allemagne est un bon exemple. Je suis chirurgien esthétique, donc je vous le disais, j'ai des patients allemands, je peux vous dire, c'est des gens corrects, travailleurs. Et vraiment, moi, j'ai admiration pour ces gens-là qui ont travaillé d'une manière, c'est incroyable. Il faut aller voir les Allemands. Ce sont, et Angela Merkel est une femme politique de qualité, elle est professeure de physique, c'est une femme intelligente, on peut lui faire confiance. Il faut aller avec elle.
Merci donc, Alain de votre témoignage. Dominique Riquet.
Et alors, je trouve que notre administration fiscale sort assez ratée. Non, je ferai gentiment remarquer que
ce soir, comme nous c'est sommes, pas trop le sujet du débat.
Voilà, comme nous sommes l'État qui prélève le plus dans le monde, on a une administration fiscale, en tout cas d'une remarquable efficacité pour ce qui est de ponctionner les citoyens. Bon, et que manifestement, elle va toujours dans le même sens. Moi, je pense simplement que l'Allemagne a un problème particulier, c'est sa structure démographique. L'importance des retraités, et d'ailleurs qui sont un élément essentiel de la politique d'épargne en Allemagne, et de cette politique d'excédent en fait, bon, qui était effectivement appuyée par un tissu industriel extrêmement fort. C'est une civilisation de la discipline, de l'effort, et c'est vrai que les Français sont un peu plus latins sur le sujet. L'Europe, c'est très précisément la possibilité non pas d'opposer les différences, mais d'additionner les forces. Voilà. Alors les Français, ils ont leurs défauts et leurs qualités, mais ils ont de la création, ils ont de la capacité d'être créatifs sur le plan politique, ils viennent de le démontrer amplement. Ils ont aussi la capacité d'être créatifs sur le plan administratif, scientifique, sur le plan de ce qu'ils peuvent faire en termes artistiques, et sur le plan aussi industriel, où on a une base qui reste quand même assez remarquable. Donc, moi, je pense que l'idée, c'est pas d'opposer. Voyez-vous, ça, l'Europe, sur le dos de laquelle on mettrait d'ailleurs un certain nombre de misères que les gens peuvent ressentir à juste titre, mais qui n'ont rien à voir avec l'Europe, mais plutôt avec les défauts des gouvernances nationales. Bon, mais c'est plus facile de le mettre sur le dos de l'Europe. Bon, moi, ce que je veux dire, c'est additionnons nos forces. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les Allemands, j'en ai beaucoup pour les Français, j'en ai beaucoup pour les Belges et les Italiens. Ils ont des qualités différentes. L'Europe, c'est la somme de tout. Donc moi, je prendrai ce qu'il y a bien chez les Allemands, on leur apportera un petit peu ce qu'ils n'ont pas et que nous avons, et ça ira mieux, voilà.
Claude Rollin, qu'est-ce que pourrait accepter Angela Merkel par rapport à tout ce qu'a mis sur la table Emmanuel Macron?
Je pense que la première chose...
Quelle est la zone un petit peu d'acceptation, en quelque sorte?
Je pense que la première chose qu'elle peut accepter, c'est la vision positive, qui est quand même nouvelle en France, que peut apporter et qui est en train d'apporter M. Macron. C'est-à-dire d'envoyer vers les citoyens, non plus des images négatives en disant « demain, ça ira plus mal », mais des images qui sont positives, qui donnent de l'avenir. La deuxième chose, l'auditeur, je trouve c'est intéressant, montrer un peu l'Allemagne comme étant un modèle. Moi, je ne crois pas au modèle, mais je trouve que c'est intéressant, comme le disait M. Riquet, qu'on aille chercher aux différents endroits ce qui est pertinent. Qu'est-ce qui est pertinent et qui fonctionne bien aujourd'hui en Allemagne? Eh bien, l'Allemagne est un pays, et en la matière, je pense que la France aurait intérêt de prendre exemple sur l'Allemagne. C'est un pays qui a construit son développement sur la concertation sociale. Et je pense que là, il y a quelques réglages à faire dans un pays comme la France, si je peux me permettre. Un deuxième élément qu'on peut aller chercher et qui doit être démultiplié au niveau européen, c'est le système de formation allemand, de formation duale, où on forme dans l'entreprise. Et ça fonctionne bien. Donc moi, je pense qu'au niveau européen, on a intérêt de faire des benchmarking, c'est-à-dire d'aller chercher chez les uns et chez les autres ce qui fonctionne bien. Mais l'idée d'avoir des modèles, c'est-à-dire de copier partout ce que l'Allemagne fait, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, si l'Allemagne a pu se développer comme elle s'est développée, elle a gagné parce que d'autres ont perdu. Ce qu'on doit travailler, c'est des solutions gagnant-gagnant, c'est-à-dire où ensemble, comme Européens, nous gagnons.
En même temps, les solutions gagnant-gagnant, pour l'instant, la proposition de gouvernance de la zone euro, la proposition de budget de l'euro, pour l'instant, les Allemands, ils n'en veulent pas, clairement.
Attendez, il faut attendre, M. Riquet l'a dit tout à l'heure, on est dans une phase où il y aura bientôt des élections en Allemagne. Moi, je pense que là, M. Macron met sur la table des choses qui sont intelligentes, intéressantes, pertinentes, et je ne vois aucune raison, hormis le contexte électoral, qui ferait que Mme Merkel ou d'autres, d'ailleurs après en Allemagne, refusent cette idée-là.
Maria-Rena ?
Mais moi, je trouve ce qui est intéressant chez Emmanuel Macron, c'est qu'il a dit ce que vous avez dit tout à l'heure, la faute, ce n'est pas l'Europe. Il a dit, la solution peut être l'Europe.
On change le discours complètement, là, on est tous d'accord.
Et ça, je trouve c'est intéressant par rapport à ce qu'il veut faire avec l'Allemagne. Ce n'est pas de dire, c'est à cause d'eux, mais si on se met ensemble, on peut faire mieux. C'est ça le discours qu'on doit pouvoir soutenir. Maintenant, effectivement, on va attendre ce que l'Allemagne va faire après les élections, et cette construction va se faire après ces élections. Ils ne vont pas, aujourd'hui, brûler des cartouches qui les mettraient en difficulté. Ce que, d'ailleurs, Emmanuel Macron a fait pendant les élections. Il n'a rien dit sur ce qu'il allait faire. Et c'est ce qui lui a permis effectivement de gagner ces élections. Je pense que Mme Merkel a moins l'avantage d'Emmanuel Macron parce qu'elle est connue, son équipe est connue, donc c'est plus compliqué pour elle. Mais il ne faut pas qu'elle brûle effectivement, qu'elle use ses cartouches.
Dominique Riquet.
Oui, moi je crois qu'il y a trois dossiers qui sont sur la table tout de suite, dont ils ont discuté et qui vont faire l'objet d'un travail dans les semaines et les mois qui viennent, qui sont les travailleurs détachés. On est dessus. C'est le droit d'asile, le droit d'asile unique européen et la réciprocité commerciale. Des sujets sur lesquels je pense qu'il y aura un consensus quand même très significatif à l'intérieur du Parlement européen. Et si l'élan au Conseil est donné, voilà. Et là, il y a trois sujets sur la table. Après, il y a effectivement la convergence fiscale, les réformes structurelles en France. Là, il y a ce que le président de la République va réussir à impulser dans la France elle-même. Moi, je ne crois pas du tout, sur les dossiers qui sont à plus long terme, après les élections allemandes et dans l'année qui vient, comme la constitution d'une gouvernance spécifique de la zone euro avec un trésor, un ministre, etc. Je ne crois pas du tout que les Allemands soient contre. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que ça soit de la gestion qui aussi fasse de la gestion ex-ante. Ils ne veulent pas de mutualisation des dettes antérieures. Ils ne veulent pas revenir sur ce qui a été fait avant. Bah, je comprends, ils ne veulent pas payer, entre guillemets, pour ce qu'ils n'ont pas contrôlé. Voilà. Donc il y aura probablement, et je crois qu'il y a un consensus, bon, sans arriver ou sans mettre de côté les pays du pacte de Visegrad, les pays qui sont plus à l'Est, mais il y aura un consensus pour resserrer la gouvernance de la zone euro. Et d'ailleurs, je vais vous dire, les pays qui sont plus à l'Est et qui ont un petit peu peur d'être dans un deuxième cercle, je pense que ça serait une très bonne incitation pour les inciter à rentrer dans cette zone euro et finalement à renforcer encore cette zone euro, parce que des pays comme la Tchéquie ou la Pologne ont des coefficients de développement beaucoup plus élevés que les nôtres. Ils sont en train de rattraper le niveau moyen européen et il n'y a aucune raison qu'ils soient à l'écart. Donc je ne pense pas du tout que les Allemands soient contre. Je pense que cette gouvernance spécifique et renforcée de la zone euro, c'est un moyen de renforcer l'Europe. Moi, je n'ai pas entendu que Mme Merkel avait une position de principe contre. Voilà.
On retourne au standard. Michel qui nous appelle de Paris. Vous intervenez au 01 45 24 7000. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir. Bon, ma question est sur le long terme. Je ne sais pas si elle est opportune. Je suis français, mais je suis européen. Je suis convaincu pour nos enfants et nos petits-enfants que le seul avenir de nos pays, c'est l'Union fédérale. Pourquoi ? En deux mots, nous sommes tous tributaires de la Grèce antique, la civilisation qui a tout apporté, mais la Grèce n'a jamais existé parce que les gens se battaient entre eux. Dès qu'elle a eu un pays puissant comme la Macédoine et Rome, ils ont subi la loi des plus forts. Et à mon avis, si l'Europe ne devient pas fédérale, nous terminerons chaque pays en subissant la loi des plus forts, les Chinois, les Américains, les Russes, etc. Et on dira de l'Europe, ce fut une belle civilisation, mais elle n'a jamais existé. C'est pour ça que je suis profondément, je crois au futur pour mes petits-enfants d'une Europe fédérale. Et c'est une position d'Européen. Voilà.
Merci Michel, le doux rêve d'une Europe fédérale. Claude Rollin.
Oui, mais c'est un rêve que je partage, même si je sais que ce n'est pas pour demain. Mais si je regarde la campagne électorale en France, j'ai entendu certains, ils ont perdu heureusement, prêcher, c'est vraiment prêcher, pour que la France retrouve sa souveraineté nationale. Mais quelle bêtise, quel mensonge. La seule façon, dans un monde globalisé dans lequel nous sommes, la seule façon pour que nous puissions être souverains, c'est le faire ensemble comme pays européen. Et donc c'est quelque chose d'essentiel. Et donc de nouveau, je pense que M. Macron, dans les déclarations et dans ce que j'ai lu jusqu'à présent, donne des indications qui sont tout à fait positives dans ce sens-là.
Maria Arena, vous voulez intervenir.
Alors c'est sans doute plus facile pour un pays comme la Belgique et des députés belges d'être fédéralistes parce qu'on vient d'une histoire fédéraliste et donc on n'a pas peur de céder à un autre niveau de pouvoir, une parcelle de sa souveraineté. C'est peut-être sans doute plus difficile pour un pays comme l'Allemagne ou comme la France de rentrer dans cette logique fédéraliste, mais l'enjeu de l'avenir est vraiment là, c'est-à-dire que tous les défis sont des défis mondiaux, non plus des défis qui concernent les nations, mais des défis mondiaux. Quand on parle de l'environnement, quand on parle de la globalisation, quand on parle, c'est au niveau mondial qu'on doit se positionner. Donc, même quand on est un grand pays comme la France, on ne peut pas rivaliser avec une entité comme la Chine. Donc, on a besoin des 500 millions d'habitants qu'on représente en Europe pour pouvoir peser sur la scène internationale. Et ça, je pense que c'est effectivement l'avenir dans lequel on devra se projeter. Mais je vous dis, un petit pays comme la Belgique a plus de facilité à se projeter dans cet avenir qu'un grand pays ou comme les grands pays européens.
Alors, on a parlé politique, on a parlé économie. Jean-Luc, qui nous appelle de la Drôme, vous vouliez soulever effectivement l'aspect social de l'Europe. On vous écoute, Jean-Luc, bonsoir.
Oui, bonsoir et bonsoir à vos invités. Oui, moi, ce qui me gêne beaucoup en étant vraiment pro-européen, c'est je ne suis pas pour l'Europe actuelle et l'Europe dont on parle tous les jours, c'est-à-dire l'Europe de l'économie, de la finance, de l'euro, où l'aspect social et politique n'existe pas, ou très rarement. Voilà ma question. Où est cette Europe sociale et politique qui pourrait faire réellement exister l'Europe ?
Merci Jean-Luc. Où est l'Europe sociale ? Dominique Riquet.
Le drame, c'est qu'elle n'est pas dans les traités. Voilà, il faut rappeler une chose, hein. C'est que l'Europe, en fait, ça s'appelle, c'est l'Union européenne. Cette Union européenne, c'est une entité politique ou administrative qui est régie par des traités dans lesquels les États, à l'unanimité, confient des responsabilités à l'Europe. La vraie question, c'est que les États n'ont confié aucune responsabilité sociale à l'Europe, hormis la définition de seuils minimaux qui tiennent plus, d'ailleurs, aux droits de l'homme, je dirais, finalement.
Alors, ça pourrait faire partie, effectivement, de la refonte des traités que Angela Merkel et Emmanuel Macron souhaitent mettre en place.
Ce que je vais vous dire,
allez, c'est... faisons un rêve, l'Europe sociale devient...
Mais c'est comme la monnaie unique.
Là, il y a quelque chose de communautaire.
C'est comme la monnaie unique. À un moment, on avait tellement avancé sur le domaine économique qu'on a jugé qu'on avait besoin d'une monnaie unique, et c'est vrai, d'ailleurs. Vous ne pouvez pas continuer à avancer sans avoir une monnaie unique. Eh bien, maintenant, on est à un point où, pour continuer à avancer, on a besoin d'une convergence sociale et fiscale. Et fiscale.
Parce oui, que mais les deux... On en parle, mais ça vient toujours mais pas.
Parce clairement, que les États
je veux dire, Jean-Luc
résistent.
Là a raison. Aujourd'hui, on ne fait pas d'Europe sociale. Ça
aujourd'hui,
n'existe pas.
Allez, je pense que nous pouvons faire le pari. Alors, c'est un pari. Mais aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité. Une série de gens, aujourd'hui, sont convaincus que nous avons failli par l'absence de réponse sur les enjeux sociaux. Et monsieur a tout à fait raison d'intervenir de cette façon-là. La fenêtre d'opportunité, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le pilier social. On verra bien comment la Commission veut avancer sur ce pilier, avec une série de mesures d'harmonisation qui vont plus loin sur le social. Il faut le concrétiser, mais c'est une fenêtre d'opportunité. C'est la réflexion que Jean-Claude Juncker a lancée sur la redéfinition de la dimension sociale.
Une mesure concrète, ça serait quoi ? Que dans les deux ans, il y a un SMIC européen, par exemple ?
Tout à fait, un salaire minimum.
Maria Arena.
Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles ça ne se fait pas. Un, il n'y a pas de volonté politique. Et aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique ni du Parlement. Aujourd'hui, il y a une majorité dans ce Parlement qui bloque des discussions qui sont des discussions et des avancées sociales. Si on parle sur la question du détachement des travailleurs, c'est social. Que dit-on sur le détachement des travailleurs ?
En révision, hein.
Qu'est-ce que nous demandons ? Nous disons qu'il faut protéger les travailleurs. Donc, il faut arrêter d'exploiter ces travailleurs. Peu importe qu'ils soient polonais, portugais, français, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est pour la libre circulation, mais ces travailleurs doivent être protégés au même titre qu'un travailleur français ou qu'un travailleur belge. Quand nous disons ça, il y a un blocage, et certains disent « Ah mais non, ça c'est la loi du marché, s'il est moins cher, il doit donner la possibilité à une entreprise de l'utiliser ». Je ne suis pas d'accord avec cette vision de l'Europe. La loi du marché ne peut pas revenir à une forme d'esclavage en Europe. Nous devons avoir cette liberté de circulation, mais avec une protection. S'il y avait la volonté politique de le faire, on aurait une majorité au Parlement pour le faire, on aurait une majorité au Conseil pour le faire, et la proposition viendrait de la Commission. Donc ce n'est pas une question de traité, on peut le faire. Quand on a fait le traité budgétaire et qu'on a dit on doit rétrécir les possibilités de dépenses des États membres, on a fait un traité budgétaire et aujourd'hui l'Europe se positionne par exemple sur les pensions. Ce n'est pas une compétence européenne les pensions. Et pourtant la Commission européenne dit aux États membres attention, si vous n'allongez pas l'âge de la retraite, eh bien vous allez avoir des problèmes parce que votre système de sécurité sociale ne fonctionne pas. Donc oui, quand on a la volonté politique, on peut le faire. Mais l'Europe, c'est une démocratie, comme toute démocratie. Et donc s'il y a des gens qui ne veulent pas prendre cette responsabilité, c'est parce qu'ils ont été élus pour ne pas prendre cette responsabilité.
Alors justement, une question par Internet de Denis. Question simple. Est-ce que Madame Merkel et Monsieur Macron ont discuté pour mettre fin au dumping, dossier qui me paraît essentiel? Ça, c'est une question concrète. Est-ce qu'ils en ont parlé?
Le dumping social, c'est au cœur de la directive détachement. Moi, je n'étais pas entre eux, en tous les cas, donc je ne sais pas dire de quoi ils ont parlé exactement. Mais ce dont je suis certain, Maria Arena a tout à fait raison sur la volonté politique qu'il faut avoir. Mais si on veut régler le problème de dumping social, il faut qu'on travaille
d'une part, avoir des règles sociales, que chaque État les fasse respecter dans les États, mais aussi que l'on travaille avec les pays qui sont moins privilégiés. Je pense aux nouveaux pays, pour qu'ils puissent construire leur développement endogène. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des pays, à tort, ont décidé, je vais dire un méchant mot, d'exporter une main-d'œuvre à bon marché pour récupérer leur différentiel de développement. C'est de la folie. Ce qu'il faut, c'est le développement.
Il y a une solution. Il suffit que les entreprises belges ou françaises qui recrutent ces personnes paye dans une caisse de cotisation sociale ce qu'il paierait pour un travailleur français ou belge. Et que cette caisse retourne au pays d'origine qui pourrait organiser un système de protection sociale. C'est pas compliqué. On le fait dans le cadre de la TVA. Pourquoi on ne le ferait pas dans le cadre de la perception d'une cotisation sociale ? C'est simplement parce qu'il n'y a pas de volonté politique, parce que des entreprises s'en sortent très bien en recrutant des travailleurs qu'elles payent 300 euros par mois plutôt que 1300.
Dominique Riquet.
Je pense que ce qui vient d'être dit me paraît très très dangereux.
Dominique Riquet.
C'est-à-dire, il ne faut pas laisser croire à nos auditeurs que l'Europe peut prendre des décisions contraignantes sur le plan social.
Non, mais parce que les États ne le veulent pas, Dominique.
Non, mais attendez.
On est d'accord.
Quand j'entends tout à l'heure, il n'y a pas de volonté politique à l'intérieur du Parlement, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir prendre ce type de discussion.
Donc,
de manière
ça peut faire partie de la refondation des traités.
Voilà. Alors, la vraie discussion, c'est entre les États membres et au niveau du Conseil de refondre les traités.
Alors, Maria Arena n'est pas du tout d'accord avec vous.
La directive détachement. Concrètement, on est en train de la discuter sur la révision de cette directive. Si déjà le Parlement prend une position claire par rapport à cette directive détachement, le message politique est envoyé à la Commission. Commission qui elle-même doit prendre une initiative et qui doit avoir le soutien du Conseil. La question de votre auditrice est simple. Est-ce que le moteur franco-allemand à l'intérieur du Conseil va soutenir une modification de la directive détachement qui va faire en sorte qu'on va arrêter d'exploiter...
En tout cas, Emmanuel Macron le souhaite visiblement. Non. C'est ce qu'il a annoncé.
Qui va arrêter d'exploiter les travailleurs.
Je suis d'accord et je soutiens la modification de la directive détachement. C'est un problème extrêmement technique. On aurait du mal à s'expliquer. Mais nous tirons dans le même sens, entre guillemets. Ce que je veux simplement dire, de manière plus large, c'est que ni le Parlement, ni la Commission d'ailleurs, ne peuvent prendre des décisions contraignantes de ce type parce que les traités le leur interdisent. C'est pas en disant que c'est un problème de volonté politique à l'intérieur du Parlement. Il faut absolument qu'on change les traités à ce propos.
Eh bien voilà, on va terminer l'émission sur ce sujet. Effectivement, ils veulent refonder les traités. Les Français et les Allemands veulent refonder les traités. Alors, dont acte. Attendons un petit peu les futures décisions. On arrive au terme de cette émission. Merci à toute l'équipe technique, Carlos Gaston, Sarah Tanguy, Claire Duncombe et Jürgen Schmitt. Et à la réalisation à Paris, Marion Lelay, assistée d'Amélie Stadelmann. Dans quelques instants, il sera 20h sur France Inter.